Mathieu, merci qu'il soit là au milieu de nous aujourd'hui et merci pour tout ce que tu as mis dans son cœur. Et merci parce que tu vas l'aider à transmettre ce que il a à nous dire. Et merci de lui donner ta paix et ton amour, Jésus. En ton nom, amen.
Amen, merci beaucoup. Sont prêts. Voilà, tous les moyens techniques sont prêts, c'est merveilleux. Bonjour, alors c'est un plaisir de pouvoir être devant vous ce matin pour ouvrir la parole ensemble et puis continuer cette série sur 1 Corinthiens avec aujourd'hui le chapitre 12. Et je vous propose cette lecture ce matin, nos dons au service de l'Église. Et on verra comment ce texte fait émerger ce thème. Alors pour commencer, avec une introduction qui capte votre attention, j'ai appris cette semaine que notre cher pasteur apprenait à patiner à son fils, 7 ans. Donc voilà, j'ai été les prendre en photo à Froideville. Vous l'imaginez avec une petite barbe comme ça, je trouve que ce serait pas mal, Johan. Voilà, donc je suis stagiaire, donc la semaine je lui apporte des cafés, et puis le dimanche je le cite dans ma prédication, c'est normal. On faillote comme on peut. Non, j'y ai repensé parce qu'il y a quelques jours, on est allé à la patinoire avec des amis, et puis, alors chacun à son niveau, quand on arrive sur la glace, tout d'un coup on est ramené vraiment à ceux qui marchent un peu cambrés, pour d'autres ça glisse tout seul, on voit qu'ils ont fait ça toute leur enfance. Et puis il y avait ces gars, vous savez, qui font du hockey 7 fois par semaine, ils patinent mieux que comment ils marchent, et puis ils le montrent quoi. Ils vont à 200 à l'heure, ils te passent à 2 mm, ils freinent juste avant toi, t'as de la neige qui éclabousse partout. Puis j'ai plein de potes que ça énervait parce qu'ils faisaient leur premier pas comme ça, puis t'as ces jeunes qui viennent et qui te montrent, qui savent quoi, qui veulent que ça se voie. Et puis, c'est vrai que ça énerve. Et ça m'a fait réfléchir et je me dis que c'est vrai, savoir patiner comme plein d'autres capacités ou dons, eh ben on a le choix de se la péter, de frimer. Vous savez, ils viennent en arrière comme ça, ils patinent en arrière, ils te fixent dans les yeux et ils te regardent comme je patine bien. On a le choix, c'est vrai. Quand on est doué pour quelque chose, on peut se la péter et chercher à se couvrir de gloire avec ses dons. Ou alors, avec un petit peu d'humilité, chercher à servir l'autre, chercher à se mettre au service de l'autre comme ce papa barbu sur cette photo. Voilà donc nos dons au service de l'Église et pas au service de mon ego ou de ma propre recherche de gloire. Et on va voir qu'avec le texte d'aujourd'hui, c'est ce que Paul amène aux Corinthiens et cherche à leur dire, les dons de l'Esprit, mettez-les au service du corps de Christ. Et il va nous expliquer ça en une trentaine de versets. Alors je vous propose de lire les 11 premiers, 1 Corinthiens 12, 1 à 11. « Frères et sœurs chrétiens, au sujet des dons de l'Esprit Saint, je ne veux pas que vous restiez ignorants. Autrefois, vous ne connaissiez pas encore Dieu. » Vous le savez, vous étiez entraînés vers les faux dieux qui ne parlent pas. Vous ne pouviez pas leur résister. C'est pourquoi je veux vous faire savoir une chose. Si quelqu'un parle avec l'aide de l'Esprit de Dieu, il ne peut pas dire que Jésus soit maudit. Et sans l'aide de l'Esprit Saint, personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur ». Oui, il y a des dons différents, mais c'est le même Esprit qui les donne. Il y a des façons de servir différentes, mais on sert le même Seigneur. Il y a des activités différentes, mais c'est le même Dieu qui les produit toutes en tous. Chacun reçoit le don de montrer la puissance de l'Esprit Saint, et cela pour le bien de tous. L'un reçoit de l'Esprit le don de parler avec sagesse, l'autre reçoit du même Esprit le don de faire connaître Dieu, un autre reçoit de ce même Esprit le don d'une foi très solide, un autre reçoit de cet unique Esprit le don de guérir les malades, un autre peut faire des actions extraordinaires, un autre peut parler au nom de Dieu. Un autre sait faire la différence entre ce qui vient de l'Esprit Saint et ce qui ne vient pas de lui. Un autre peut parler en des langues inconnues. Un autre peut les traduire. Mais tout cela, c'est le seul et même Esprit Saint qui le rend possible. Il distribue ses dons à chacun comme il veut. Les dons de l'Esprit, c'est Dieu qui nous les donne et tout vient de lui. Donc on l'a compris, ce chapitre 12 concernera les dons de l'Esprit et Paul commence son enseignement sur les dons de l'Esprit en rappelant la centralité de Dieu dans ses dons. Il corrige ou redresse quelque peu les Corinthiens qui se décentrer de Dieu et se concentrer sur les dons. Il commence son enseignement non pas en parlant premièrement des dons en soi ou des croyants en qui se manifeste l'Esprit, mais premièrement, il est question de Dieu. Et il est primordial que Dieu ait cette première place quand on parle des dons de l'Esprit. Car c'est Dieu qui produit tout en tous, dit le verset 6. C'est l'Esprit qui nous les donne. C'est le Christ que nous devons servir avec nos dons et c'est Dieu qui les produit en nous. On doit se remettre à Dieu quand il est question de manifestation de l'Esprit en nous, car il est le seul à mériter gloire et honneur de ce qui se manifeste à travers nous. Le verset 7 nous rappelle que Dieu donne à chacun. C'est bon de se le rappeler, et croyez-le, Dieu n'oublie personne s'il dit qu'il donne à chacun. Chacun reçoit le don de montrer la puissance de l'Esprit-Saint. De la même manière, certainement pas, mais chacun reçoit le don de pouvoir manifester l'Esprit de Dieu en lui. Et de cette affirmation, on découle deux vérités. Premièrement, on n'a pas à craindre, alors qu'on n'ait peut-être pas de dons ou des dons moins bien que les autres, puisque ces dons viennent de Dieu, c'est lui qui en est responsable, c'est lui qu'on sert avec. Alors ne craignons pas que ça dépende de notre personne, contrairement à ce que le développement personnel et la société autour de nous cherchent à nous dire. Hein. Produis, cherche au fond de toi, améliore-toi, les dons, ça vient de toi, il faut t'améliorer sur les choses où tu n'es pas assez bon. Les dons de l'Esprit ne viennent pas de nous, c'est un don, un cadeau de Dieu, alors n'ayons pas peur de les mettre au service. Si c'est Dieu qui a décidé de placer en toi un don prophétique, prophétise, parle en son nom. Pourquoi est-ce qu'on ose remettre en question ses décisions sur nos vies? Si c'est Dieu qui a placé en nous le don de parler avec sagesse, dans la discrétion, derrière la scène, dans l'ombre, personne ne le voit, n'ayons pas peur ou ne croyons pas que ça vaut moins, car c'est Dieu qui les place en nous. Deuxième vérité, plus que simplement oser pratiquer ses dons, soyons reconnaissants à Dieu de ses cadeaux, ses dons dans nos vies. Ça passe par leur mise en pratique, évidemment, mais une attitude de reconnaissance également. Soyons fiers de ses capacités, ses dons qu'il nous a confiés et des occasions qu'il nous confie pour les mettre en pratique. Et rappelons-nous que l'Esprit-Saint qui nous les distribue, le Dieu que nous servons, le royaume que nous cherchons à faire avancer à travers ses dons, nous dépasse largement. Lorsque l'on croit que tout se rapporte à notre petite personne, on fait fausse route. Et après avoir listé les différents dons qu'on vient de lire, et on y reviendra, je vous promets, Paul rappelle avec le dernier verset, le 11 qu'on vient de lire, cette vérité si importante. Ces dons ne peuvent pas être attribués à la sagesse humaine, ni à des aptitudes naturelles, ni donc nourrir notre orgueil d'une quelconque manière. Ils viennent de Dieu. C'est l'Esprit-Saint qui distribue selon ses plans sur nos vies. Et je vous laisse avec l'image de ce cadeau, ces dons, ce cadeau, on en est plus ou moins conscient de ceux qu'on a, et puis quand on ne les pratique pas, quand on se dit « non mais ce don je le laisse de côté, je sais que je l'ai pas », c'est comme si le cadeau Dieu nous le donne et on ne l'ouvre pas. On le garde, il est doré, il est joli, il y a un beau ruban, je ne veux pas casser le papier. Ce don, je ne le mets pas au service, je le garde pour moi, mais en même temps, il n'est pas trop bien, donc je ne veux pas l'utiliser. Le cadeau, on ne l'ouvre pas, alors que si on réalise que c'est Dieu qui nous le donne, en face, est-ce qu'on oserait ne pas l'ouvrir? Est-ce qu'on ne se dirait pas quand même, ah ouais, il doit avoir des plans géniaux avec ce qu'il y a dans ce cadeau quand même? J'ose ouvrir, j'ose l'utiliser. Alors l'utiliser pourquoi, comment, au service de qui? C'est la suite du texte qui nous le dit. Paul utilise une comparaison. Le corps forme un tout, et pourtant il y a plusieurs parties. Malgré leur nombre, toutes les parties du corps ne forment qu'un seul corps. Pour le Christ, c'est la même chose. Tous, juifs et non-juifs, esclaves et personnes libres, nous avons reçu le baptême dans un seul Esprit Saint, pour former un seul corps. Nous avons tous bu à la source de cet unique Esprit. En effet, le corps n'a pas qu'une seule partie, il en a plusieurs. Le pied peut dire « moi, je ne suis pas une main, donc je ne fais pas partie du corps ». Pourtant, il fait quand même partie du corps. L'oreille peut dire « je ne suis pas un œil, donc je ne fais pas partie du corps ». Pourtant, elle fait quand même partie du corps. Si dans le corps, il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre? S'il n'y avait que les oreilles, comment pourrait-on sentir les odeurs? Mais Dieu a placé chaque partie dans le corps comme il l'a voulu. Si l'ensemble se compose d'une seule partie, il n'y a pas de corps. Il y a donc plusieurs parties, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi » et la tête ne peut pas dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Au contraire, même les parties du corps qui semblent les plus faibles sont nécessaires. Les parties que nous jugeons les moins respectables, nous les respectons davantage. Celles qu'on ne doit pas voir, nous nous en occupons avec plus de soin. Les parties de notre corps qu'on peut voir n'ont pas besoin de tous ces soins, mais Dieu a fait le corps en donnant plus d'honneur aux parties les moins respectables. Alors il n'y a pas de division dans le corps, au contraire, toutes ces parties prennent soin les unes des autres. Si une partie du corps souffre, toutes les autres parties souffrent avec elle. Si une partie est à l'honneur, toutes les autres partagent sa joie. Faire corps, être unis les uns aux autres par Christ. En plein milieu de cet enseignement sur les dons de l'esprit, après avoir rappelé que tout venait de Dieu, que c'est lui qui avait la première place, Paul nous parle de l'Église, l'Assemblée, l'unité des chrétiens. Il recentre les Corinthiens sur ce qu'est l'Église et ce qu'est l'unité. Les dons de l'Église, les dons de l'Esprit, pardon, qui se manifestent dans l'Église, sont tellement diverses qu'ils peuvent être sujets à diviser. Chez les Corinthiens, c'était le cas. Chacun cherchait à être le meilleur, à se montrer au-dessus, et ça divisait. Et Paul les recentre sur ce qui est le plus important. Ces dons doivent pointer vers l'unité de l'Église. Cette diversité doit servir à vous unir, parce qu'ils viennent du même Dieu et que vous êtes le même corps. Il avait introduit cette unité dès le verset 3. Au tout début, si quelqu'un parle avec l'aide de l'Esprit-Saint, personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur ». Paul avait introduit cette thématique des dons de l'Esprit en rappelant que Jésus doit être au centre. Toute manifestation de l'Esprit doit être discernée à la lumière de Christ et de sa bonne nouvelle. Car dans notre diversité d'actions, notre diversité de personnes, notre diversité de dons, Christ, par son exemple et par sa bonne nouvelle, est notre centre unificateur, parfois la seule chose qui nous rassemble. Et pourtant, ça doit être suffisant pour pouvoir faire corps. Les versets 4 à 6, juste après, continuent cette exhortation à l'unité. Il nous dit « il y a des dons différents, mais c'est le même esprit qui les donne ». Il y a des façons de servir différentes, mais on sert le même Seigneur, Christ. Il y a des activités différentes, mais c'est le même Dieu qui les produit toutes en tous. Belle image de la Trinité ici, qui est elle-même l'exemple parfait de l'unité par la diversité. Au sein même d'un seul Dieu, trois personnes. Dieu est parfaitement un, parfaitement uni, il a une seule volonté. Et pourtant, trois personnes différentes. Dieu le Père a donné son Fils, qui s'est incarné sur terre, et l'Esprit est descendu et habite en nous aujourd'hui. Trois actions différentes, et pourtant, un seul Dieu. Paul pointe ici l'exemple le plus parfait qui soit en termes d'unité. Évidemment, on ne peut pas viser une unité aussi parfaite que ça, mais il nous montre à quel point l'enjeu de l'unité dans cette question des dons de l'Esprit est importante. La valeur de chaque don réside dans le fait qu'il doit servir l'unité du corps. Si le don sert uniquement à une partie ou uniquement à moi-même, comme c'était le cas chez les Corinthiens, le don perd de sa valeur. La manifestation de l'Esprit doit édifier le corps tout entier. Alors promis, je ne vous ai pas trouvé d'image cette fois, mais on sera tous d'accord pour dire qu'un œil arraché du corps ou une main détachée n'a plus aucune valeur pour le corps. Elle ne sert à rien si elle se met à part et qu'elle ne sert pas le corps tout entier. Paul étoffe son appel à l'unité avec cette image de la communauté chrétienne comme le corps du Christ. On l'a lu, il y a plusieurs membres, mais un seul corps, au verset 20. Et cette conception du corps dépasse notre compréhension et nos réflexes humains. Le corps sans ses orteils est complètement handicapé, on en est d'accord, et pourtant, qui apporte de l'importance à ses orteils? Les derniers versets nous montrent un renversement de valeur totale où Dieu dit qu'il donne plus d'honneur aux moins respectables. Dieu nous montre que pour lui, chacun est important et que personne ne doit se sentir supérieur car il aurait un don plus en vue, ni se sentir lésé ou moins important ou moins valide car il en possède de plus discret. Chacun a sa place dans le corps et chaque don a sa place dans l'Église. Alors ne perdons pas de vue qu'il nous les a donnés pour que chacun, on puisse les mettre au service du corps. Que chaque membre soit au service de l'Église tout entière, au service les uns des autres. Et puis on finit ce chapitre 12 avec les quatre derniers versets. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des enseignants. Ensuite viennent les miracles, puis les dons de guérison, les aptitudes à secourir, à diriger, à parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs, je vais encore vous montrer la voie par excellence. Voilà, après avoir entendu que Dieu a la première place dans nos dons, que ces dons doivent être au service du corps entier, on a là une deuxième liste, après celle que nous avons lue tout à l'heure, des dons de l'esprit. Une liste qui se veut très large. Paul nous présente là un panel énorme. Et puis les commentateurs ne sont pas tout à fait d'accord de quoi faire de cette liste. Est-ce que c'est une hiérarchisation des dons les plus importants aux plus secondaires? Est-ce que c'est plutôt une chronologie dans l'histoire de l'Église? Ou est-ce que c'est même une manière rhétorique de présenter ce que Paul introduit à la fin et dont il sera question dans le chapitre suivant, l'amour qui surpasse tous ces dons? On relève quand même que pour la deuxième fois en deux listes, le parler en langue se trouve en bonne dernière position. Et c'est évidemment un clin d'œil tout à fait volontaire de Paul qui rappelle aux Corinthiens, peut-être ce n'est pas le don le plus pertinent pour édifier le corps entier. En tout cas, la manière dont vous l'utilisez n'édifie pas le corps. Pourtant, il est dans la liste les deux fois. Donc, Paul valide que c'est un don de l'esprit, une manifestation, et qu'il est bon de pouvoir louer Dieu au-delà du vocabulaire que nous connaissons avec ce don pour ceux qui l'ont, c'est merveilleux. Mais Paul sert ici son message en disant « Est-ce que vous êtes vraiment au service les uns des autres ?» comme vous utilisez les manifestations de l'Esprit dans votre assemblée. Ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas de savoir quel commentateur a les meilleurs arguments théologiques entre hiérarchisation, chronologie. Ce qui mérite toute notre attention, c'est plutôt le panel énorme de dons que Paul balaye ici, dans cette liste. Il parle des figures avec le plus d'autorité dans la première Église, il parle des apôtres, des prophètes, des enseignants, il passe par les signes extraordinaires, miracles, guérisons. Il finit par les langues, nous l'avons dit, et puis il cite également deux actes de service. Verset 26, l'aptitude à secourir et à diriger. Ces deux actes de service n'apparaissent nulle part ailleurs, comme ça, dans le Nouveau Testament. L'aptitude à secourir, assister, aider, rejoindrait le champ sémantique de soutenir activement, de prendre part à quelque chose, soutenir son prochain, un projet. Et puis, l'aptitude à diriger rejoint l'idée de gouverner, l'idée, administrer. Des dons tellement simples, tellement concrets qu'on aurait de la peine à les mettre dans cette liste. Pourtant, ils sont dans la liste d'un Corinthiens 12. C'est des dons qu'on qualifie des fois trop concrets, peut-être pas assez spirituels. Oui, tu aides, tu soutiens, tu administres, super. Où est ta vie spirituelle? Paul nous la met ici dans la liste des dons spirituels, et parce que ces actes sont profondément spirituels. Je vous relis les paroles qu'on a entendues il y a quelques semaines de Jésus en Matthieu 25, 40. « Je vous le dis, c'est la vérité, à chaque fois que vous l'avez fait, cela à un de mes plus petits frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Dieu prend plaisir lorsqu'on met nos dons, les plus petits soient-ils, au service de nos frères les plus petits. Soit-il également. Dieu attend que nous mettions nos dons, les dons qu'il nous confie, au service de son corps pour édifier l'Église tout entière. Et le verset 27 qui avait introduit cette liste résume bien cette idée centrale. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Ne cherchons pas la performance ou la comparaison entre nos dons, mais rappelons-nous que chacun a sa part à donner avec ses dons. Mettons nos dons qui viennent de Dieu au service du corps tout entier. Et puis en guise de conclusion, je vous relirai le verset 31, « Aspirez aux dons les meilleurs, je vais encore vous montrer la voie par excellence. » La voie par excellence que Paul introduit ici et développera sur tout le chapitre 13, on aura le plaisir d'entendre ces prochaines semaines, c'est l'amour. Cette cause plus grande, plus profonde, qui dépasse ce qu'il a expliqué jusque-là. Et pourtant, il serait complètement faux de penser que l'amour ne concerne pas notre chapitre à nous, mais concerne uniquement le suivant. Par quoi, sinon, l'amour, l'esprit nous donne-t-il ? Comment vivre le corps de Christ, aimer ces gens si différents, si ce n'est par l'amour que le Christ nous donne ? Et à quoi bon servir l'autre, son prochain, sans rien attendre en retour, si ce n'est pas l'amour qui nous pousse, qui nous motive à le faire ? Gordon Fee, dans son commentaire sur 1 Corinthiens, nous dit que Paul nous donne là le seul contexte valide dans lequel pratiquer son enseignement sur les dons de l'esprit. Le seul contexte pour pouvoir réaliser que ces dons viennent de Dieu et que donc je suis capable parce qu'il me qualifie. Le seul contexte pour vivre le corps de Christ. Le seul contexte pour se mettre au service comme Dieu l'attend, c'est l'amour. Et si c'est l'amour de Christ qui nous habite, nous pouvons être reconnaissants pour ces dons et nous pouvons les mettre au service des autres. Et on va conclure avec ces trois questions toutes concrètes. Comment montrer ma reconnaissance à Dieu pour les dons qu'il me confie ? Comment mettre en pratique cet amour pour les autres comme Dieu nous le demande ? Comment faire corps ? Et quels dons je mets au service des autres par amour désintéressé, de manière simple ? Et je vais terminer par la prière. Oui, Seigneur, merci pour ton amour qui guide tout, merci pour ton amour qui enveloppe, qui donne un sens au message sur les dons de l'Esprit, sur le corps de Christ, sur ton Église. Merci parce que tu nous illumines, tu nous fais comprendre une nouvelle chose sur ton amour ce matin. Merci pour les dons que tu donnes à chacun et que on puisse tous être encouragés à pratiquer cet amour à travers les dons que nous pouvons manifester. Nous pouvons manifester ton Esprit, ton amour aux autres, pour édifier ton corps. Amen.